Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du conflit israélo-palestinien. Nous sommes la classe de 3e F du collège Jean Moulin à Toulouse. Nous accueillons aujourd'hui un professeur de géopolitique à l'université Jean Jaurès, maître de conférences en géographie.
Dans ce podcast, en deux parties, nous parlerons de ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza et en Israël, puis des répercussions du conflit à l'échelle régionale ainsi qu'à l'échelle internationale. Je vous laisse en compagnie de mes camarades et bonne écoute.
Nous allons vous présenter le Hamas et plus précisément son histoire. Mais alors, qu'est-ce que le Hamas ? Quels sont leurs objectifs ? Et comment procède-t-il ?
Le Hamas a été créé en 1987 par Cheikh Ahmed Yassine suite à l'intifada. Le Hamas, acronyme de Mouvement de Résistance Islamique en arabe, est une organisation radicale possédant une branche politique et militaire qui use de la violence. Cette même violence est employée par Al-Qassam, milice de Hamas. De plus, cette organisation contrôle la bande de Gaza depuis 2007.
Mais comment le Hamas procède-t-il ? Il organise des attentats, des attaques à la roquette ou encore des voitures piégées dans l'objectif de détruire Israël, puis de créer un État islamique dans toute la Palestine.
Pour finir, ce groupe armé possède des alliés financiers comme l'Arabie Saoudite ou encore le Qatar. Cependant, son principal allié est l'Iran, qui lui fournit une aide financière, mais aussi logistique et technique. Néanmoins, le Hamas a des opposants comme Fatah, qui est dirigé par l'autorité palestinienne.
Pour conclure, le Hamas est un groupe islamique qui contrôle la bande de Gaza. Malgré tout, son principal objectif est de fonder un État islamique palestinien en détruisant Israël.
Nous allons vous présenter la signification du mot intifada.
L'intifada est une révolte d'adolescents palestiniens contre les armées israéliennes.
Quels sont leurs moyens d'action ? Dans la première intifada, ils lancent des cailloux sur l'armée israélienne.
Bilan, première intifada, en 1987, 1100 Palestiniens sont morts et 160 Israéliens. Il y a eu aussi des Palestiniens incarcérés et blessés.
Dans la seconde intifada, ils utilisent des armes à feu et des attentats sont faits par les adolescents palestiniens contre l'armée israélienne.
Pour la deuxième intifada, en septembre 2000, 3000 Palestiniens meurent et 900 Israéliens.
Qu'est-ce que le Hamas ?
Alors, le Hamas, c'est un acronyme en fait en arabe qui veut dire le mouvement de la résistance islamique. Ce qu'il faut voir, c'est que la résistance palestinienne a un peu changé de forme. Pendant des années, c'était les États arabes voisins d'Israël qui ont porté le refus d'Israël et le projet du nationalisme palestinien, de libérer la Palestine et de créer un État palestinien. On a vu qu'à la suite d'une série de guerres, ces États, ils ont perdu, ou alors ils ont fini par négocier, signer la paix avec Israël, par accepter plus ou moins tacitement l'existence de l'État d'Israël. Au bout d'un moment, la population palestinienne réalise que la libération ne viendra pas de la Syrie, de l'Égypte, de la Jordanie, etc. Et donc, il y a une phase dans les années 80 dans la résistance palestinienne qui est une phase nationale, interne, avec ce qu'on appelle l'intifada. L'intifada, ça veut dire la guerre des pierres, le soulèvement. Ce sont les Palestiniens des territoires occupés eux-mêmes qui lancent à la fin des années 80 une grande révolte contre l'occupation israélienne avec des frondes, avec des pierres. Et évidemment, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas d'armes, etc. Et c'est violemment réprimé par l'armée israélienne qui tire à balles réelles sur les manifestants. Il faut dire aussi que pendant des années, il y a un mouvement qui a lutté pour la libération de la Palestine, un mouvement palestinien, mais qui était hors de la Palestine, qui s'appelait l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, dirigée par Yasser Arafat, qui fédérait plusieurs mouvements palestiniens. Le principal, c'est le Fatah. Mais ces mouvements étaient souvent d'inspiration socialiste, révolutionnaire, tiers-mondiste. Ils s'inspiraient des Vietnamiens, de la guerre du Vietnam contre les Américains, du FLN algérien contre les Français. Donc ils voyaient ça comme une lutte décoloniale contre le colonialisme et révolutionnaire. Donc ils étaient plutôt de gauche, plutôt laïcs, et révolutionnaires. Et le Hamas, c'est un nouvel acteur qui est plutôt issu des frères musulmans, c'est-à-dire un mouvement musulman islamiste qu'on trouve en Égypte. Et eux, ils disent, pour libérer notre pays d'Israël, il faut qu'on revienne aux fondamentaux de l'islam. Il faut qu'on respecte la religion, qu'on soit plus fondamentaliste, plus radicaux. Donc c'est un mouvement à la fois nationaliste et religieux. On qualifie parfois de mouvement national religieux ou islamo-nationaliste. Et le Hamas, donc, il va être important dans les intifadas. Et puis, il prend le pouvoir dans la bande de Gaza en 2007. Il y a un conflit, il y a des élections et puis il y a des contestations, ça se passe mal. Et en fait, l'OLP, qui avait obtenu une forme d'autonomie en Cisjordanie, est chassé de la bande de Gaza par le Hamas, qui prend le pouvoir dans ce territoire. Il faut dire qu'en 2005 aussi, Israël a démantelé ses colonies dans la bande de Gaza et est sorti de ce territoire. Et donc se constitue cette espèce de proto-État islamique ultranationaliste aux portes d'Israël.
On entend souvent parler du terrorisme, mais savez-vous réellement ce que ça signifie ?
D'après le Musée mémorial du terrorisme, il existe 6 critères pour le définir. Les voici.
Premièrement, le terrorisme comprend l'usage ou la menace d'une violence extrême et destructrice.
Deuxièmement, il peut avoir pour but d'intimider ou de détruire un système en place.
Le terrorisme est un acte organisé.
Il a pour but d'offenser la population.
Ensuite, le terrorisme a souvent des objectifs politiques ou religieux.
Et enfin, il vise souvent à enfreindre les lois nationales et internationales.
Pourquoi le Hamas est-il qualifié de groupe terroriste ?
Le terrorisme, c'est quand un groupe, souvent non étatique, mais les États peuvent aussi le pratiquer, utilise sciemment la terreur, la violence, pour créer un sentiment de terreur dans une population et l'amener à changer d'avis ou la démotiver, la démobiliser dans des objectifs politiques. Alors, le terrorisme n'est pas une invention du Hamas. Les Palestiniens, les mouvements de résistance laïque et révolutionnaire, l'OLP a énormément pratiqué le terrorisme. Il va bientôt y avoir des Jeux Olympiques à Paris. En 1972, à Munich, la délégation des athlètes israéliens est prise en otage par un commando de terroristes qui ne sont pas du tout des gens du Hamas. Ils sont alliés avec des révolutionnaires d'extrême-gauche allemands. Donc le terrorisme est très ancien dans le conflit israélo-palestinien. On l'appelle parfois l'arme du pauvre, parce que quand on est un groupe qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on ne peut pas lutter contre l'armée israélienne. Une action terrorisme, elle a un fort retentissement psychologique sur la population et l'opinion publique mondiale. Et donc le Hamas utilise très largement le terrorisme et notamment, ils utilisent beaucoup l'attentat suicide. Ils vont lancer toute une série d'attentats dans les années 90 en Israël où ils envoient des kamikazes, ils appellent ça des martyrs, des volontaires pour la mort qui vont se faire exploser avec des sacs à dos bourrés d'explosifs dans des bus à Tel Aviv, à Jérusalem, etc. Donc effectivement, c'est un groupe qui pratique le terrorisme pour essayer de lutter contre l'occupation israélienne et influencer la population israélienne.
Que se passe-t-il dans la bande de Gaza ?
Alors, ce qui se passe dans la bande de Gaza, aujourd'hui, on a déjà un peu commencé à répondre à cette question, c'est que Gaza est devenu un sanctuaire pour ce fameux groupe Hamas qui a trouvé des soutiens dans tous les ennemis d'Israël, notamment, il y a une rivalité géopolitique importante entre Israël et l'Iran. Le Hamas a été largement soutenu par l'Iran. Et le Hamas a conduit une espèce de guérilla de longue durée contre Israël. Il y a eu plusieurs épisodes de guerre entre la bande de Gaza et Israël. Israël a mis sous blocus la bande de Gaza. C'est-à-dire que les Gazaouis, il y a plus de 2 millions de personnes qui vivent enfermées dans ce territoire avec juste le strict minimum pour vivre. Il y a peu de développement économique possible à cause de ce blocus. Et régulièrement, quand il y a des tensions entre les deux États, le Hamas, par exemple, tirait des roquettes contre Israël ou utilisait des tunnels pour faire des infiltrations de terroristes en Israël, etc. Et la dernière attaque en date dans cette forme de terrorisme, vous la connaissez, c'est le fameux 7 octobre 2023. Il y a eu une attaque massive du Hamas qui a réussi à complètement subvertir la barrière de sécurité qui encercle Gaza, parce que Gaza est non seulement sous blocus, mais entouré de murs, de barbelés, de tout un système de miradors de défense. Donc ils ont réussi le 7 octobre en attaquant avec des drones, en utilisant des ailes volantes, etc., à franchir cette barrière et à lancer une incursion meurtrière en Israël qui a fait pas loin de 1200 morts, autour de 350 soldats et 750 civils. Et du coup, cette attaque sans précédent dans l'histoire, qui pour Israël a été dramatique, il y a des kibboutz entiers, des villages qui ont été attaqués, des jeunes, vous savez, il y avait un grand festival de techno, des jeunes qui dansaient dans le désert, qui se sont fait massacrer par les miliciens du Hamas. Et du coup, Israël a lancé une énorme contre-offensive depuis, hein, en disant, ben, puisque c'est comme ça, nous, on va détruire le Hamas, cette fois-ci, complètement. Et donc, ils ont lancé une grande offensive contre Israël, militaire, avec des bombardements massifs, extrêmement brutales. Et c'est toujours la suite de cette offensive à laquelle on assiste aujourd'hui.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler des otages faits le 7 octobre 2023 par les commandos du Hamas et plusieurs groupes palestiniens.
Les commandos du Hamas et des groupes palestiniens ont pris pour otages des Israéliens pour avoir un moyen de pression contre Israël dans le cadre de la guerre qui les oppose.
Ces otages sont des militaires, des habitants de kibboutz, fermes agricoles, des travailleurs agricoles ou étrangers ou encore des spectateurs d'un festival Nova près de Gaza. Après 7 mois de guerre, le mardi 7 mai 2024, 112 hommes, femmes et enfants ont été libérés. Parmi ces otages, 34 sont morts. En conclusion, même si beaucoup d'otages ont été libérés, à ce jour, le Hamas détient encore 121 otages israéliens.
En ce moment, on entend beaucoup parler de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Mais comment est-il devenu le premier ministre à la plus longue longévité de l'histoire d'Israël et à créer le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays ?
Benjamin Netanyahou est né en Israël en 1949. Il passe son enfance aux États-Unis, dans une famille d'historiens de droite radicale. Il étudie au Massachusetts Institute of Technology, le MIT. En 1976, son frère, Yoni, meurt dans une opération militaire de libération d'otages. Yoni devient un héros national israélien. Après sa mort, Benjamin apparaît souvent dans des émissions télévisées. Il devient un personnage médiatique et public. Il commence donc à défendre la politique israélienne à la télé. Il devient représentant d'Israël aux Nations Unies. En 1993, il remet sur pied un vieux parti politique de droite, le Likoud. Il devient le leader de l'opposition et s'oppose aux accords d'Oslo. En 1996, Benjamin devient le premier ministre israélien. Il défend une politique nationaliste et libérale, en promettant la sécurité plutôt que la paix. Il est premier ministre de 1996 à 1999, puis de 2009 à 2021, puis réélu en 2022 jusqu'à maintenant.
Actuellement, le gouvernement israélien n'est pas stable. C'est un gouvernement de coalition. On peut par exemple compter 32 sièges du Likoud sur 120 à l'Assemblée nationale. La population israélienne est très divisée sur la question du Premier ministre. Il perd en notoriété. De plus, Netanyahou est aussi critiqué à l'international. En témoigne sa condamnation à la Cour pénale internationale du 20 mai 2024.
Y a-t-il de morts depuis octobre 2023 ?
Alors, le bilan aujourd'hui, en mai 2023, ces fameuses attaques du Hamas, donc le 7 octobre 2023, ont fait en une seule journée autour de 350 morts des forces de sécurité en Israël, à peu près 750 civils. Et en plus, il y a 250 otages qui ont été pris et amenés dans la bande de Gaza. Une partie ont été libérés, une autre partie sont morts, il y en a une partie dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Bon. Ensuite, la contre-offensive israélienne, elle a été très, très meurtrière puisqu'elle a fait à ce jour plus de 36 000 morts, hein, semble-t-il, à Gaza et avec une grande majorité de civils là aussi. Alors évidemment, au milieu, il y a des combattants du Hamas, mais il y a beaucoup de femmes et d'enfants aussi et de civils dans le lot.
Pourquoi Israël et le Hamas n'arrivent-ils pas à trouver un accord ?
Le problème de trouver un accord, c'est que le Hamas déjà est un mouvement extrêmement radical, c'est-à-dire pendant longtemps, la doctrine officielle du Hamas, contrairement à l'autorité palestinienne qui était prête à négocier, à partager le territoire avec l'État d'Israël, le Hamas est sur une ligne dure en disant nous ce qu'on veut c'est libérer toute la Palestine de la mer au Jourdain, c'est-à-dire détruire l'État d'Israël et ne pas cohabiter avec lui, ne pas partager la terre. Donc évidemment, de ce point de vue, Israël ne peut pas accepter évidemment un accord qui amènerait à sa propre destruction. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans le camp israélien, on a à l'inverse aussi des gens extrêmement radicaux. C'est l'extrême droite qui est au pouvoir en Israël et qui est pour l'expulsion des Palestiniens, la politique la plus dure possible. Et tant pis s'il y a des dizaines de milliers de morts pour aller traquer les terroristes du Hamas. Ils sont prêts à faire payer à la population civile un coût extrêmement élevé. Donc, on a deux acteurs très radicaux l'un en face de l'autre. Donc, ce n'est pas la situation idéale pour arriver à un compromis.
Depuis plusieurs mois, la Cisjordanie est au cœur de l'actualité.
Qu'est-ce que la Cisjordanie ?
La Cisjordanie est un territoire palestinien créé par la résolution des Nations Unies en 1947.
Depuis la guerre de Six Jours, l'État israélien occupe cette région située sur la rive ouest du Jourdain.
La Cisjordanie est gouvernée par l'autorité nationale palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas.
Bonjour, nous sommes Valentin et Léo, élèves de 3e au collège Jean Moulin, et nous allons vous présenter la situation des colonies israéliennes en Cisjordanie.
Quelles ont été justement les évolutions et les dynamiques de ces colonies en Cisjordanie ? Une des premières colonies est apparue en 1967, après l'occupation israélienne de la Cisjordanie durant la guerre des Six Jours. Les colonies, fondées par des citoyens israéliens, se sont multipliées pour arriver à environ 300 colonies, dont la moitié sont reconnues par le gouvernement israélien. Chaque colonie est protégée par des militaires israéliens, plus ou moins nombreux selon sa taille. Mais est-ce que ces colonies sont légales ?
Alors, l'ONU considère ces colonies illégales d'après le droit international et les condamne. Mais une partie du gouvernement israélien en reconnaît la plupart et continue de soutenir l'installation de celles-ci.
Aujourd'hui, l'implantation des colonies continue et les violences entre colons israéliens et palestiniens s'affirment de plus en plus, avec 200 morts palestiniens tués par des colons ou militaires israéliens, depuis octobre 2023.
Quelle est la situation actuelle en Cisjordanie ?
La Cisjordanie, tout comme la bande de Gaza d'ailleurs, elle avait fait l'objet d'un accord entre Israël et l'autorité palestinienne qui est issue de l'OLP, hein, du groupe de résistants palestiniens dirigé par Yasser Arafat. Au début des années 90, on a failli faire la paix et résoudre le conflit israélo-palestinien. Il y a eu ce qu'on a appelé les accords d'Oslo en 1994 qui ont installé donc une autorité palestinienne. Alors voyez, là aussi les mots sont importants, hein. C'est un peu comme le foyer national juif, c'est-à-dire que ce n'est pas un État palestinien, c'est une autorité civile qui s'occupe un peu des questions quotidiennes en Cisjordanie. Et on a partagé la Cisjordanie en trois zones, avec des zones qui sont sous domination, sous contrôle de l'autorité palestinienne, en gros les grandes villes, des zones mixtes où il y a un contrôle sécuritaire mixte entre les Palestiniens et l'armée et les forces de sécurité israéliennes, et puis des zones qui restent 100% sous contrôle israélien, qui correspondent au territoire des fameuses colonies israéliennes implantées en Cisjordanie, aux bases militaires, à la zone frontière avec la Jordanie, etc. Et on a essayé de faire cohabiter ça. L'idée, c'était peut-être à terme, si on arrive à se faire confiance, à aller plus loin et créer un État palestinien, un accord de paix définitif. Ça n'a jamais eu lieu parce que des deux côtés, c'est les extrémistes qui l'ont emporté. Il y a eu une campagne d'attentat du Hamas, justement, qui a fait capoter la suite des discussions. En Israël, c'est l'extrême droite qui est revenue au pouvoir après les travaillistes qui, eux, étaient prêts, les socialistes qui étaient prêts à négocier avec les Palestiniens. Et Yitzhak Rabin, qui avait négocié les accords de paix, a été tué par un Israélien, pas par un Palestinien, hein, par un fondamentaliste nationaliste religieux israélien. Donc les accords de paix ont capoté. Et donc ce qui se trouve, c'est qu'aujourd'hui, cette Cisjordanie, elle continue à vivre majoritairement sous occupation militaire israélienne. L'autorité palestinienne a très peu de pouvoir, elle est impuissante, elle est dirigée par un monsieur qui a confisqué un peu le pouvoir, qui s'appelle Mahmoud Abbas, qui est vieillissant, qui est accusé d'être corrompu, etc. Et donc la population vit vraiment sous occupation, sans aucun droit. L'eau et les ressources naturelles sont de plus en plus accaparées par les colons. Il y a des très grandes violences entre les colons et la population palestinienne. Il y a régulièrement des opérations militaires israéliennes dans les villages, dans les camps de réfugiés, qui font beaucoup de victimes. Donc une situation très tendue et voilà, qui n'est absolument pas réglée aujourd'hui.
Pourquoi Israël ou les Palestiniens sont-ils soutenus par d'autres pays ?
Il faut voir que dans ce conflit, c'est un grand retentissement mondial. Pourquoi ? Sans doute déjà en raison du lieu où il se produit, qui est, on l'a dit, une terre sainte pour les trois grandes religions monothéistes. Donc il y a un certain écho aussi bien pour les chrétiens, les musulmans et les juifs dans le monde. Il faut voir que les juifs aujourd'hui, j'ai dit au début qu'ils avaient longtemps vécu en diaspora. Aujourd'hui, il y en a à peu près la moitié de la population juive mondiale, autour de 7 millions de personnes qui vivent en Israël. Mais il y a toujours une moitié des juifs qui vivent en diaspora et dans beaucoup de pays. Donc, il y en a en France, il y a à peu près 500 000, il y en a au Royaume-Uni, il y en a aux États-Unis. Ils forment une communauté très importante. Et donc, tous ces Juifs, spontanément, se sentent plutôt solidaires, évidemment, de l'État d'Israël. Côté palestinien, c'est pareil. Les Palestiniens, c'est un sous-groupe d'un peuple plus vaste qui sont les Arabes. C'est les gens qui parlent arabe, qui est une langue qu'on parle de l'Irak jusqu'au Maroc. Et du coup, la plupart des populations arabes dans le monde ont tendance à plutôt se sentir solidaires de la partie palestinienne. Et les Arabes, aujourd'hui, constituent aussi des diasporas, des groupes d'immigration assez importantes. Et puis, il y a enfin une solidarité religieuse musulmane. Les musulmans, c'est 2 milliards de personnes à l'échelle mondiale. Les Arabes, c'est 300-400 millions, les musulmans, c'est 2 milliards. Et la plupart des musulmans du monde, même en Indonésie, en Inde, etc., se sentent plutôt solidaires des Palestiniens à cause de cette question des lieux saints, puisqu'il y a quand même cette dimension religieuse du conflit qu'on a déjà évoquée rapidement.
Pourquoi y a-t-il des manifestations dans d'autres pays, y compris en France ?
On a différentes manifestations de ces communautés, souvent, qui viennent soutenir un camp ou l'autre. En France, il y a plutôt aujourd'hui des mobilisations pro-palestiniennes et qui sont liées, qui peuvent être le fait de la communauté immigrée d'origine arabe ou musulmane, mais qui mobilisent au-delà, y compris par exemple chez les étudiants. On a vu à l'Institut des sciences politiques à Paris, où il y avait une mobilisation. En fait, les commentateurs font mine de s'en étonner, mais c'est quelque chose d'assez banal que quand il y a des guerres et des conflits avec des violences assez choquantes, parce que là, il y a une violence très choquante qui s'exerce contre des civils. On voit tous les jours des images de bombardements extrêmement meurtriers sur des camps de réfugiés, etc. Souvent, les étudiants, pour des raisons morales, manifestent contre ces conflits. C'était déjà le cas au moment de la guerre du Vietnam, ça a été un peu le cas pendant la guerre d'Algérie. Donc, c'est quelque chose d'assez habituel pour des raisons morales et parfois pour des raisons politiques.
Est-ce que vous pensez que le conflit va durer ou qu'il pourra bientôt être résolu ? Qu'est-ce qui pourrait régler le conflit ?
Malheureusement, aujourd'hui, on peut être assez pessimiste pour la raison qu'on a déjà évoquée, c'est que les acteurs principaux qui sont à la manœuvre sont des acteurs assez radicaux. Que ce soit le Hamas, qui a supplanté l'autorité palestinienne, qui est inaudible dans ce conflit, et en Israël, un glissement à droite de l'opinion, qui est pour une politique extrêmement dure avec les Palestiniens. Il y a des solutions possibles, elles sont connues par la communauté internationale. Et la communauté internationale, elle, dit et répète qu'il faut revenir à ce qu'a proposé l'ONU en 1947, c'est-à-dire une solution à deux États. Il faut partager, et c'est ce que disent tous les observateurs. Tant qu'il n'y aura pas de justice pour les Palestiniens, tant qu'il n'y aura pas la fin de l'occupation, un minimum d'horizon pour ces gens qui vivent sans aucun avenir possible, il n'y aura pas de paix. Et c'était un peu l'idée d'ailleurs des accords d'Oslo, c'était la paix contre les territoires. Vous donnez un territoire et une certaine autonomie aux Palestiniens et en échange, ils arrêteront de harceler Israël. Il y aura la sécurité pour les Israéliens. Donc aujourd'hui, les grandes bases de tous les plans de paix continuent d'être fondées sur ces principes-là, la paix contre les territoires et une partition du territoire, une solution à deux États qui donnerait un État aux Palestiniens. Sauf que malheureusement, les gouvernants d'Israël actuels ne veulent pas entendre parler d'un État palestinien et le Hamas est très ambigu aussi. Eux, ils disent qu'ils ne veulent pas entendre parler d'un État israélien, quoi. Ils veulent un État palestinien, mais qui s'étendrait de la mer au Jourdain et qui ne donnerait pas de place aux Palestiniens. Donc voilà, pour régler le conflit, il faudrait arriver à un compromis entre les deux communautés qui accepteraient le partage du territoire. Il y a une autre option qui est sur la table, que parfois avancent certains idéalistes, qui serait de dire il n'y a qu'à faire un grand État binational, où tout le monde serait égal, tout le monde aurait les mêmes droits, israéliens comme palestiniens. Et s'il n'y a plus de discrimination de gens qui vivent sans droit sous occupation militaire, on va arriver à la paix. Sauf qu'aujourd'hui, les tensions entre les deux communautés sont telles que ça paraît assez largement idéaliste. Et puis, ce n'est pas le projectionniste. Le projectionniste, c'était de faire un État juif pour les juifs, majoritairement juifs, où ils ne puissent pas être dominés, discriminés ou persécutés par un autre peuple. Donc, ça paraît assez compliqué, cette solution-là.
Merci à notre invité.
On espère qu'on vous aura éclairci sur ce sujet assez compliqué et que vous continuerez à vous renseigner dessus, car c'est un conflit qui bouge tous les jours. Au revoir et merci pour votre écoute.
Ce podcast en deux parties a été réalisé par Alexandra Joss pour l'association Médias Communs Occitanie, dans le cadre d'un parcours laïque et citoyen soutenu par le Conseil départemental de la Haute-Garonne en juin 2024. À l'issue d'un atelier, le Podcast Club, mené auprès des élèves de 3e F du Collège Jean Moulin à Toulouse, à l'initiative de leur professeur d'histoire-géo, Madame Perrotto. Merci à notre invité, Monsieur Tuilier, pour cet éclairage géopolitique du conflit. Cette émission est placée sous licence Creative Commons 4.0 International. Paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre.